Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Médecine Douce pour cette nouvelle émission Sagesse ou Société. Et comme à l'accoutumée, le lundi matin, nous invitons des artisans de sagesse qui œuvrent pour l'éveil de conscience. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Dufaux, fondatrice de l'association Les Nouveaux Mondes. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, ravi d'être dans l'émission avec toi aujourd'hui.
Écoute, c'est un grand plaisir. Et c'est vrai, comme je te l'expliquais, c'est pour moi c'est très important de pouvoir aussi faire connaître des personnes qui œuvrent chacun à son niveau. Et je sais que la période du Covid, cette période de crise sanitaire, n'a pas été facile pour les associations, et dont l'association Les Nouveaux Mondes, où il a fallu traverser les vents de cette tempête. Mais j'ai bien entendu à travers nos partages que vous êtes sur une nouvelle dynamique, et ça me fait très plaisir que tu puisses aujourd'hui partager. Alors, l'association Les Nouveaux Mondes, donc, elle a été créée en 2008-2009, hein. Et c'est vrai que votre désir, c'est vraiment d'ouvrir des chemins de conscience et de reliance, faire les ponts entre les sagesses anciennes et sciences. Donc ça tombe vraiment bien, cette invitation sur sagesse et société. Tu es vraiment au cœur de la thématique de cette émission. Comment, déjà, pour que nos auditrices, auditeurs puissent aussi mieux te connaître, qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie, sur ton parcours, et puis peut-être aussi, qu'est-ce qui t'a amené à créer l'association Les Nouveaux Mondes?
Oui, alors écoute, c'est un parcours intérieur, je dirais, parce que pendant, depuis 1993, j'étais engagée dans un cheminement intérieur qui est passé par le zen, après par le bouddhisme tibétain, que j'ai exploré beaucoup et à fond, à vrai dire, à travers la lignée des Kagyupa au fin fond de l'Inde. Et donc, ce sont les expériences intérieures et ce sont les visions intérieures que j'avais du monde, de sa transparence, des différentes dimensions et puis du cœur de notre nature qui, je pense, ont fait qu'un jour s'est posé la question de comment je pouvais un peu rendre de la beauté, de l'or que j'avais reçu avec les maîtres tibétains, comment je pouvais rendre ça à ma manière, avec mes simples qualités et mon tempérament, comment je pouvais participer moi aussi, à ma manière, à une évolution. Et puis en 2008, il y a eu un facteur déclenchant, c'est que, étant très proche des Tibétains, de la culture tibétaine, des pratiques du bouddhisme tibétain, Vajrayana puis Dzogchen, il y a eu les Jeux Olympiques en Chine, et il y avait de nombreux Tibétains qui s'immolaient devant les temples au Tibet. Et puis je me suis pratiquement rien dit, mais il s'est imposé à moi que j'allais faire une semaine tibétaine pour présenter le monde du Tibet et sa sagesse à Kassi, où je suis dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Et puis, de fil en aiguille, tout s'est proposé facilement. Alors, Kassi n'est pas un village forcément intéressé par ces sujets, je dois dire, mais il y avait une maison des associations qui s'est réouverte, une personne très conciliante et très généreuse qui m'a ouvert ses portes, m'a dit d'accord, faisons cette semaine. Et donc j'ai pu inviter des moines qui faisaient un mandala de la compassion, interroger des scientifiques, différents sages et différents sujets qui ont été un premier pas. Et je ne songeais pas du tout à continuer à faire quoi que ce soit dans ce domaine de la transmission et de l'organisation. Et puis l'année d'après, finalement, j'avais autour de moi tellement d'amis, d'intervenants. J'ai fait un premier festival sur les sciences de la conscience. Et puis, j'ai continué d'année en année en ajoutant des programmes ensuite à l'année. Et ce que j'aimais bien, par mon expérience intérieure, c'est de confronter la vision de la science. Et j'interrogeais du coup des scientifiques comme Philippe Guimand ou comme beaucoup d'autres, physiciens, biologistes, qui finalement, pour moi, démontraient ce que je vivais à l'intérieur. C'est-à-dire l'aperçu du monde et des univers que je voyais à l'intérieur de mes yeux, je dirais, eh bien, correspondait bien à ce que la science découvrait par ailleurs. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, sans réfléchir, comme un écoulement de ce que je vivais à l'intérieur.
Un beau parcours, une vraie quête. de sens, c'est une quête spirituelle, une très belle tradition, la tradition tibétaine. Qu'est-ce qui t'a permis? Quels sont les enseignements phares de cette tradition qui a amené peut-être une transformation chez toi ou peut-être un changement?
Je crois que d'abord, c'est inscrit sur des valeurs de compréhension, des mécanismes humains, des conditionnements, qui est très explicite, très fouillé et très. J'avais l'impression vraiment d'être à l'université plus qu'à l'université en Occident hein, quand j'étais avec les Tibétains au fin fond d'Inde, parce que leurs explications, leurs expériences et leur transmission est très détaillée et elle est toujours transmise de maître à disciple avec beaucoup de beaucoup d'explications et je dirais que donc ça s'appuie sur des valeurs de connaissance de comment on rentre dans comment fonctionne la souffrance en nous, pourquoi il y a cette souffrance, comment quel est le chemin de la libération de la souffrance. Qu'est-ce que c'est qu'un samadhi? Qu'est-ce que c'est que la libération? Et nous, l'éveil qu'on porte souvent comme un but, et n'est pas un but, mais encore une porte et un chemin vers des mondes bien plus grands qui sont notre nature intérieure. Donc, en fin de compte, ils avaient les outils pour moi. Ils ont eu la sagesse des enseignements et des outils de pratique qui font qu'on peut directement expérimenter ce qu'il montre. Et moi, je suis pas une fille de croyance, c'est-à-dire que je suis pas du tout une scientifique au départ, mais c'est un peu scientifiquement que j'ai éprouvé tout ça, c'est-à-dire qu'on me racontait quelque chose que je ne croyais pas forcément, mais avec les pratiques, je l'expérimentais, et là, je me disais, ah, c'est vrai, d'accord, ça c'est bon, je peux poursuivre. Et de fil en aiguille, entre l'expérience d'un calme mental, après, il y a la vision pénétrante, Vipassana. Ensuite, il y a le Mahamudra, l'union du tout, je dirais. Ben, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut expérimenter parce que c'est notre nature profonde. Mais j'avais été quand même éveillée un jour par un médecin français, sanskritiste et tibétologue, ami du père de mes enfants, qui m'avait invité à 30 ans à le rituel du Bouddha de médecine, une initiation du Bouddha de médecine pendant 3 jours. Sans explication, tout en tibétain. Et là, j'avais rencontré, je dirais, l'absolu de ma nature, à travers la lumière, la sagesse autoconnaissante, autoconnaissance, et à travers le déploiement de la conscience. Alors, c'est une expérience que j'ai eue, ce n'est pas une réalisation, puisqu'il y a un va-et-vient là-dedans, mais je ne me trompe plus sur l'origine de ma nature, et je ne pense pas me tromper sur l'origine des choses et du monde parce que c'est validé par les textes de sagesse partout, donc je me considère un peu comme une mystique. Je suis une mystique qui pour finir est allée un peu dehors montrer son bout de nez et puis dire bah, tiens, on pourrait dans l'incarnation faire un petit quelque chose, moi j'évolue, donc si je pouvais aider les gens à évoluer ça serait pas mal. C'est un peu cette idée là au départ.
Oui, on sent bien que c'est à travers ta propre expérience, ta propre compréhension, surtout expérientielle, de tous ces textes tibétains, en tout cas de la tradition bouddhiste tibétaine, on sent effectivement un accomplissement, en tout cas une certaine réalisation dans ton parcours. C'est magnifique, merci de ton partage. Une voie tibétaine qui est très intéressante parce qu'effectivement la connaissance qui est véhiculée par... c'est pas pour rien d'ailleurs que ça a énormément bien pris en Occident, en tout cas en France... La tradition tibétaine a énormément bien prise en France, parce qu'effectivement, l'intellect français est très à même de comprendre, en tout cas d'aborder ces textes qui sont très pointus, et oui. Il y a cette notion où ça nourrit aussi notre intellect, et c'est important, hein, comme dans la tradition védique, on appelle cette voie du yoga le jnana yoga, la voie de la connaissance, et c'est important, il y a la pratique, mais c'est toujours intéressant de nourrir l'intellect supérieur pour qu'il comprenne aussi un certain niveau, qu'il valide, et qu'il y a un vrai échange entre les compréhensions intellectuelles et puis l'expérience. Et comme ça, ça nous permet de sortir des concepts et des dogmes qu'on peut des fois aborder.
Tout à fait. Mais comme en Inde, il y a les différents aspects de la voie, c'est-à-dire il y a la voie de la connaissance. Moi, je dirais que je suis rentrée par là. Mais il y a la voie de l'amour. Mais l'amour sans la connaissance, ça ne porte pas non plus à l'éveil. C'est comme les ailes d'un oiseau, dit-on. Si on n'a pas et la connaissance et l'amour, ben, rien ne se passe dans l'évolution. Mais selon son tempérament, en fin de compte, tous les chemins sont possibles, ben, du moment qu'à un moment donné, ça se croise dans une certaine réalisation.
Et donc, l'association Les Nouveaux Mondes, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette association, comment elle est née, et puis surtout, tu nous as expliqué comment elle est née, mais quels sont vraiment le cœur des actions des Nouveaux Mondes?
Oui, tout à fait. Alors, donc en 2008, j'ai fait une semaine tibétaine, il y a 20 bénévoles qui sont venus me rejoindre, et puis après, pour le premier festival sur les sciences de la conscience, on était un petit groupe autour de mon frère, d'un ami, de plusieurs amis, et là, on l'a assise avec un nom et des statuts. On l'a enregistré en mai 2009 à la préfecture. Et à partir de là, son phare, c'était vraiment les festivals qui duraient 9 jours, en fait, et qui étaient distribués comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait des conférences, il y avait des ateliers pour goûter un peu ce qui était exprimé dans les conférences, il y avait beaucoup de films, il y avait beaucoup de débats. Et le fait d'être réunis ensemble sur toutes ces questions, puis ça nous les élevait les uns les autres. Ça durait 9 jours, puis après 7 jours, puis après 5 jours, parce que j'avais tous les courages au début. Et puis, ce n'est pas une affaire financière d'organiser des conférences et des ateliers comme ça. Donc, je me suis un petit peu épuisée. Mais au fur et à mesure des années, les groupes autour ont un peu changé. Ça s'est composé de différentes personnes. Et puis, finalement, ça s'est développé en programme à l'année, de stages, de rencontres, de conférences, donc avec une alternance toujours. Je n'avais pas envie que l'association soit définie par un seul sujet et une seule voix. J'avais vraiment envie, mon intention, c'était vraiment de permettre à chacun de trouver sa voix par des présentations quand même de voix authentiques, parce que je viens quand même de voix traditionnelle, mais donc j'ai un regard un peu plus aiguisé là-dessus. Mais j'avais envie que chacun trouve son chemin à travers des conférences et des stages. Donc, ça s'est beaucoup développé comme ça. Et puis, en 2019-2020, l'association a commencé à prendre une licence de voyage. Et là, on a commencé à proposer également des voyages en petits groupes. Donc, en 2020, il y avait un programme sur la Sibérie avec des chamans de l'Altaï, au Pérou, avec José Luis Herrera, qu'on a invité pendant 2 ans ici, qui est un très très beau jeune chaman péruvien qui vit aux États-Unis et qui fait vraiment des très beaux enseignements et des très belles transmissions. Après, il y avait un programme pour aller voir Auroville, parce que quand même, c'est une ville pionnière de 1968 qui est très belle à voir, même si elle traverse des difficultés, elle est très intéressante à considérer. Et donc, tu vois, il y avait un gros pôle voyage qui s'est écroulé, j'avoue, avec les confinements, un gros pôle de programmes culturels, de transmission et de rencontres, un peu mis à mal en 2020, beaucoup, très mis à mal même en 2020-2021 cette année, et des rencontres hebdomadaires, des bhajans, des chants, par la voie de la créativité aussi. J'aimais bien que soient inclus des programmes qui permettent, dans le mouvement et par le corps, de trouver des voies de connaissance. Donc voilà, ça se présente comme ça, l'association. Super. Et il y a un gros pôle que j'ai oublié quand même aussi, c'est qu'elle est un gros relais d'information. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui proposent elles-mêmes des stages, des voyages, des rencontres, peuvent sur le site mettre leurs annonces ou passer par nos 10 000 abonnés pour envoyer leur propre newsletter, une fois qu'on a un peu regardé ce qu'ils faisaient et qu'on se sent en confiance avec ce qui est proposé, bien sûr.
Comment les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, justement, peuvent te contacter et puis, justement, adhérer à cette association qui, en tout cas, qui crée, qui redonne du sens, qui donne du sens et de la reliance. Et c'est important en cette période où, justement, on a été, pour la plupart d'entre nous, ceux qui effectivement, donnent des enseignements ou des stages, se sont retrouvés, la plupart d'entre nous, donc derrière un écran. Ça fait du bien d'entendre parler de ton association et de savoir qu'effectivement, on peut retrouver du sens et de la reliance. Comment les personnes peuvent te contacter, Isabelle?
L'association s'appelle donc Association Les Nouveaux Mondes et c'est associationlesnouveauxmondes.fr. Moi, c'est Isabelle Dufaux. Il y a deux courriels, lesnouveauxmondes@gmail.com ou isabelledufaux@yahoo.fr. Et puis, là, c'est vrai qu'il y a une petite reprise. Pas mal de personnes nous recontactent parce qu'ils proposent des stages, des rencontres à nouveau ou des festivals cet été. Et donc, on a beaucoup de demandes d'annonces qu'on envoie par newsletter spécifique aux abonnés. Ça recommence un petit peu à tourner. Donc, voilà, il y a un site qui va être refait. Et il y a quelqu'un qui s'y colle généreusement, puisqu'on fait des échanges là encore, parce qu'on n'a pas assez d'argent, j'avoue, pour payer un webmaster informaticien qui referait tout. Et donc, voilà, sur le site, on peut nous contacter assez facilement.
Très bien.
Alors, je voulais te dire aussi, j'ai oublié quelque chose, quelque chose qui s'est développé grâce au confinement, je dirais. Puisqu'il n'y avait plus d'annonces, puisqu'il n'y avait plus de programme, j'avoue que j'étais un petit peu comme tout le monde pendant le premier confinement. J'ai été un peu arrêtée net et j'ai fait autre chose. J'ai fait du yoga, je me suis reposée, je me suis posé des questions, j'ai recommencé à peindre. Mais après, les gens m'écrivaient en me disant « Bon, les annonces sont obsolètes, qu'est-ce qui se passe, que vous faites ?» Et puis là, je me suis dit « Oh là là, il faut qu'on reste en lien ». Et du coup, j'ai commencé à écrire une chronique qui paraît tous les samedis matins et qui est envoyée à tout le monde, aux 10 000 abonnés. Et j'ai eu un retour fantastique. Une chronique qui présente toujours des liens ressources, aussi bien en livres, en vidéos, en musique, en thématiques de pensée, en réflexion, en paroles des uns et des autres. Et donc, elle est très lue. Puisque après avoir demandé les statistiques au début des confinements, il y avait 8000 lecteurs. Enfin, pour nous, on trouve ça pas mal. Et cette lettre, je la continue et elle paraît tous les samedis. Donc voilà, ça a ouvert un nouveau pôle de circulation entre les abonnés, les adhérents, les lecteurs, les curieux et l'association Les Nouveaux Mondes.
Merci Isabelle, on redonnera toutes les coordonnées avant la fin de notre émission. Nous abordons la deuxième partie de notre émission où c'est vraiment une question que j'ai l'habitude de poser à mes invités. C'est qu'est-ce que la sagesse pour toi, avec ton expérience, avec ton parcours? Qu'est-ce que la sagesse pour toi, Isabelle?
Alors là, si je réponds spontanément, je dirais que c'est une chaleur du cœur. C'est-à-dire que c'est un peu d'espace avant de réagir et espace pour pouvoir écouter et se sentir relié avec l'autre, avec la nature, avec le monde. Pour moi, la sagesse, c'est une vue aussi, c'est une compréhension. C'est une compréhension de l'unité qui existe malgré l'apparence de la division ou de l'altérité. Voilà, donc la sagesse, c'est... ce qui me revient aussi, c'est José Luis Herrera qui disait que pour le cœur était occupé par l'espace du jaguar arc-en-ciel qui tisse tout, qui retient tout le monde ensemble. Et ben voilà, le cœur, la sagesse, c'est comme un cœur qui voit et qui sait que tout est uni. Donc c'est comme une attention, voilà, c'est ça que je dirais, une attention précise au monde.
Magnifique. C'est toujours un bonheur pour moi d'entendre les invités partager sur cette sagesse. On sent que chacun a sa propre saveur, chacun avec son expérience lui donne un visage qui à la fois se complète, qui forme une image complète au bout du compte. En tout cas, merci Isabelle. En ce lundi matin, qu'est-ce que tu aimerais peut-être partager à nos amis qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être 2-3 conseils par rapport à ce que nous vivons, peut-être par rapport à tout ce que tu as aussi vécu en termes de sur ta voie tibétaine. Quelles seraient les 2-3 clés qui pourraient être mis en pratique pour les gens pour passer peut-être cette période d'une façon plus aisée, plus facile?
Alors, ce à quoi je pense immédiatement et qui me permet de passer relativement facilement, je dirais, c'est pour moi ce qui est super important, c'est de ne pas se confondre avec un seul regard. c'est-à-dire n'avoir qu'une seule vue des choses. Et par exemple, pendant tous ces confinements, et ce que proposent les actualités, ce qu'on voit se développer dans la société, ne pas avoir qu'une seule vue, une seule réflexion, parce que selon les dimensions qu'on habite, l'explication ou la vue change. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais être proche quelquefois de ce que diraient les dits complotistes face à ce qui se passe, mais c'est pas la seule vision que j'ai envie d'occuper. Après, si j'écoute le 20h, que j'écoute jamais à vrai dire, ce qui est dit a certainement une réalité, mais c'est pas la seule. En fin de compte, moi, c'est la multiplicité des réalités qui me donne de l'espace pour pouvoir ne pas coller à la vitre, je dirais. Donc, c'est développer un espace intérieur qui permette de voir que tout n'est qu'une fréquence, qu'elle est vérité dans cette fréquence et elle n'est plus valable dans un autre. Un peu comme les plans du monde. Il y a des lois dans chaque plan et ces lois ne sont plus valables dans d'autres plans. Alors, c'est un langage un peu intérieur que j'ai. Donc, je ne sais pas s'il est facilement compréhensible.
En tout cas, je ne sais pas pour ceux qui écoutent, mais pour moi, je le trouve très compréhensible et très clair. D'accord. Justement, j'aime bien cette vision, justement, où effectivement, cette différentes facettes de la réalité et qu'en fin de compte, chacun détient une partie et puis oui. Qu'au bout du compte, c'est important d'avoir du recul et d'avoir du discernement pour pouvoir se forger sa propre réalité, sa propre expérience. Ça me fait penser aux religions. Aux religions, c'est pareil. Ils ont toutes une partie de la vérité, mais ils n'ont pas la vérité totale. Mais quand tu les mets tous ensemble, ils y arrivent.
Tout à fait. Voilà, c'est à peu près ça. Et puis pour moi, c'est comme des fréquences radio, la réalité. C'est-à-dire, là, tu vois, on est sur Radio Médecine Douce, et puis ça a une vérité en soi, ça, ses protocoles, ça, ses invités, ses intervieweurs, sa tonalité, sa couleur. Et puis, tu écoutes une autre radio, ben, c'est plus la même chose. Et pourtant, ces mondes-là sont vrais et ils coexistent.
C'est vrai.
Pour moi, c'est un peu pareil pour les réalités du monde. Donc, voilà. Donc, moi, pour moi, c'est une clé. Prendre du temps pour soi, savoir revenir à soi, écouter son cœur, mettre de l'espace, et s'enrichir des informations positives. Oui, ça, c'était quand même une de mes motivations majeures que j'ai oublié de dire. C'est dans les festivals ou dans les programmes, pour moi, ce qui était important, ce n'était pas forcément dénoncer, parce que j'ai vu que quand je dénonçais, ce n'était pas ma nature. Bien sûr, il faut réaliser qu'il y a tel ou tel événement. Mais moi, ma nature me porte à positiver, à choisir les voies de solution, que ce soit dans la vie individuelle, que la vie en société. Voilà, j'avais envie de mettre le phare et l'accent sur les solutions. Les solutions de ressources pour soi, mais les solutions de ressources pour la société.
Merci Isabelle pour ces beaux messages en ce lundi matin. Je rappelle le site internet où les personnes peuvent vous rejoindre à l'association Les Nouveaux Mondes. Donc c'est www.associationlesnouveaumondes.com. Et là, c'est vraiment un carrefour de rencontres.
Oui, et puis j'ai oublié de parler quand même d'un sujet qui me tient très à cœur et qui est de plus en plus concret. Je pense que ça fait donc 13 ans que l'association existe. Elle était surtout donc informationnelle, organisatrice. Maintenant, je trouve qu'elle est en train d'évoluer. 14 personnes sont venues rejoindre l'association très récemment, depuis juillet dernier, avec des profils très différents et des compétences magnifiques. 14 très belles personnes, chercheurs, ingénieurs, thérapeutes, écrivains, donc de très belles personnes. On est en train de réfléchir à tout ce que l'association pourrait avancer dans de nouveaux pôles. Et j'ai oublié un pôle qui me tient à cœur depuis 2 ans et puis qui prend sa voie. C'est aussi créer un oasis des nouveaux mondes. Mais c'est donc participer à la création de lieux de vie pérennes, en habitat dit participatif, en intelligence collective. Donc, continuer à créer ces modèles de société collective tout en repensant les bases juridiques, ce qui jusque-là n'était pas très en avance, c'est qu'une petite association qui s'appelle Les Passages, en deux mots, avec des spécialistes juridiques, sont en train de monter. Bon, tout ça m'est devenu précieux et aussi est devenu précieux au groupe des 14 qu'on rejoint les Nouveaux Mondes.
Donc, pour aller un peu plus loin dans ce que tu viens de partager, magnifique projet, il en est où justement? Est-ce que vous avez déjà acquis des terres pour pouvoir créer cette oasis?
Alors, depuis 2 ans, j'ai rejoint, on s'est rencontrés autour de ce projet-là à plusieurs. Il y a eu une approche d'acquisition qui ne s'est pas faite vers Sisteron. Et là, en ce moment, le groupe se composait, je dirais, d'agriculturels, donc une grosse partie de personnes artistes, mais agriculteurs aussi, et d'autres intellectuels. On était 15. Mais là, on n'a pas trouvé un domaine qu'on cherchait de 70 hectares avec les ressources financières que nous avions dans la région du Sud-Est d'entre nous est. Mais finalement, il y a ça se scinde dans deux groupes qui sont en train de trouver deux domaines différents. Un qui correspond plus à l'accueil et la transmission, la beauté du lieu, et un autre plus paysan, avec plus de prairies, un berger, etc. Et il y a peut-être un troisième lieu avec les Nouveaux Mondes qui se créerait plus proche de la région du Sud-Est ou des Alpes de Haute-Provence, mais on cherche un domaine. Donc, je lance un appel pour le troisième lieu, celui des Nouveaux Mondes, justement, qui pourrait être à 100 jusqu'à 200 ou 300 kilomètres du Sud-Est. On est en train de chercher. Mais les deux autres groupes, nous n'en formions qu'un, mais qui se scindent en deux, là, sont sur des acquisitions, en ce moment même.
En ce moment même. Donc, est-ce que c'est ouvert à d'autres personnes qui veulent rejoindre ce type de vie en collectivité, ou comment ça se passe?
Alors, ça va pouvoir, puisque des 15, on était un groupe complet, je dirais, mais là, en se divisant, je pense qu'il y a des possibilités de que d'autres personnes rentrent, mais... Pour le moment, ils sont dans des compromis, donc ils sont en train de signer des compromis. C'est très récent tout ça. Mais il peut y avoir des... Parce que c'est ça l'avantage des passages et des Nouveaux Mondes, c'est qu'il peut y avoir des prêteurs solidaires, il peut y avoir beaucoup de gens qui rentrent, car ce ne sont pas des achats individuels, ce sont des SAS coopératives. Donc, ce sont des personnes qui se réunissent en société coopérative pour pouvoir acheter. Chacun avec la part qu'il peut, ça peut aller de 1 000, 10 000, 100 000, 200 000 euros, mais en essayant d'être intergénérationnel, complémentaire, très juste au niveau financier pour asseoir dans l'équité et la pérennité un projet qui ne peut pas être repris par un individu, mais qui va rester sur sa vision et sur ses valeurs. Donc, c'est assez, ça paraît pas, mais c'est révolutionnaire, même si ça existe déjà, certains oasis. La révolution vient de nouveaux statuts qui sont créés, qui sont d'ailleurs en place à Écoravi, dans la Drôme déjà, et qui permettent la gouvernance dynamique dans les statuts, et qui permettent que personne ne puisse récupérer le projet à lui, mais que le projet devienne facilement pérenne.
Magnifique initiative.
Donc ça me tient beaucoup à cœur.
Ça se sent. Ouais. En tout cas, beaucoup d'enthousiasme. Merci Isabelle pour nous avoir amené ce message d'enthousiasme ce matin, et cette inspiration aussi. Inspiration à aller beaucoup plus vers la reliance, vers le sens, hein, trouver le sens. Donner du sens à sa vie. Hein. Donc en tout cas, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont le désir d'en savoir un peu plus, vous pouvez toujours... allez sur le site associationlesnouveaumondes.com et de toute façon, les coordonnées seront indiquées sous la vidéo de ce podcast.
Merci à toi, enchantée de notre échange.
Merci
de nous avoir permis de nous exprimer largement.
Avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, on se dit à très bientôt et on vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Merci Isabelle.
Au revoir.
Sagesse et Société, une émission animée par Stéphane Hérault, coach de vie, enseignant yoga et méditation.